Alors, ce matin, j'ai un défi qui est de vous parler. Je sais qu'il y en a qui vont arriver par après dans le livre des juges avec les sens essentiels, mais vous aurez ce message en tête peut-être. Mais j'ai le défi de vous parler du livre des juges. Et parfois, je me dis, je vais faire enfin un message ordinaire, tu sais, moins bousculant. Et là, je me retrouve avec le livre des juges. Donc, je pense que ça sera pour une autre fois. Si vous vous rappelez, je vous avais fait un message sur un péché qu'on parle pas souvent, peut-être la dernière fois. Alors, mais là, il y aurait eu de la matière en masse dans le livre des juges, mais dans les sens essentiels, ça couvre seulement 4 textes du livre des juges. J'aimerais poser une question. Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de livres bibliques dans la Bible? Parce que vous savez que la Bible, c'est plusieurs livres bibliques. Combien il y a de livres bibliques dans la Bible? J'entends 66 ici. Tout le monde est d'accord? Donc, il y a 66 livres dans la Bible. Maintenant, ça fait combien d'auteurs peut-être différents? C'est à peu près. 43 ici. J'ai 43 qui dit moins ou plus. Pardon? 34, oui. Un seul auteur, peut-être, hein? Y a-t-il un seul auteur? Eh bien, moi, de mémoire, ce que j'avais appris à l'école biblique, c'était 44, donc c'était pas loin. Mais c'est sans compter qu'il y a des auteurs, en fait, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas qui ils sont. Mais c'est pour spécifier que, justement, la Bible a été écrite au travers des hommes, si on pourrait dire, par des hommes, par des humains. Dieu a inspiré des humains. C'est vrai que c'est toujours le même Seigneur, le même Esprit qui souffle sur les écrivains de la Bible. Mais Dieu a toujours permis que ce soit une main humaine qui écrive. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des trucs qu'on peut lire dans les Écritures, puis on se pose la question, on se dit, comment ça, c'est écrit? Alors qu'on se dit, si Dieu avait simplifié ça, une seule écriture, tout le temps le même, ça serait, il n'y aurait pas de questions, pas de doutes, ça serait toujours pareil, hein. Si nous, on écrivait par nous-mêmes une histoire biblique, on s'assurerait que tout est en ordre, puis que tout est, il n'y a pas de questions, tout est clair. Alors que quand on lit, souvent, on se retrouve avec des idées qui semblent se questionner. Et même, je vais aller jusqu'à vous proposer une idée. Je crois que si on prenait les 44 personnes qui ont écrit la Bible au travers de l'histoire, si on les rassemblait ensemble, moi, je crois qu'ils se chicaneraient. Je crois qu'ils se chicaneraient les uns les autres puis disaient « Hey, t'as pas raison d'avoir écrit ça. Non, t'as pas raison. » Et parce que ce sont des êtres humains. Mais il reste la beauté, c'est que Dieu travaille avec nous. C'est pour ça que des fois, on se demande comment ça, il y a tellement, tu sais, on est tous chrétiens, mais il y a toutes sortes de chrétiens différents. Mais c'est la beauté que Dieu travaille avec des humains. Et Dieu aime les humains. Est-ce que c'est vrai que Dieu aime les humains? À quel point Dieu aime les humains? Inconditionnellement, au point de donner Jésus. Donc, Dieu nous aime. Et c'est bien possible que si on parlait de d'autres choses, peut-être qu'on chicanerait aussi. Je me rappelle, en 95, j'étais dans une église la veille en octobre, mais je me rappelle plus exactement la date, mais la veille du référendum, notre église où j'étais, on avait fait un agapé. Mais je peux vous dire que c'était pas l'amour dans l'agapé. C'est tout le temps de l'Église, mais je sais pas pourquoi c'était tombé cette date-là. Je me rappelle pas des circonstances, mais je me rappelle que là, tout le monde était parti à parler de politique, puis qu'est-ce que tu vas voter demain, puis blablabla. Et j'en ai juste gardé un souvenir amer en me disant, bon, la prochaine fois, s'il y a un référendum, il faut pas faire l'agapé la veille. Faut faire une réunion de silence, puis une discipline spirituelle de silence. Mais tout ça pour dire que Dieu travaille avec les humains. Donc, quand on approche le livre des juges, il faut se rappeler l'humanité qui est là, mais qui en même temps que Dieu aime. On va commencer par le dernier verset de Juges. S'il y en a qui ont leur Bible, si vous voulez tourner avec moi. Puis un peu après, on va survoler l'histoire de Barak et Déborah. Mais commençons avec le dernier verset. C'est Juges 21-25. Et ce verset nous dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juste comme j'ai l'habitude de faire les choses différentes, avant d'aller plus loin, je vous lance une question. À votre avis, est-ce que c'était nécessaire qu'Israël ait un roi? Puis est-ce que Dieu voulait qu'Israël ait un roi? Je vous encourage de parler avec votre voisin avant de me répondre. Discutez avec votre voisin, voir, ça se peut qu'il y ait des chicanes, là, justement, mais criez pas trop fort. Si vous êtes en couple, parlez avec quelqu'un d'autre à côté, pour pas qu'il y ait de chicanes de couple. Mais quand on entend le texte de l'écrivain ici, il y a 2 minutes, mais vraiment, il faut entendre blablabla avec votre voisin. Là, c'est le temps, autrement dit. Mais est-ce que finalement la solution, est-ce que Dieu voulait qu'il y ait un roi en Israël? Je vous laisse réfléchir 1 minute ou 2. Je vais me servir un verre d'eau. Alors, on revient me voir. Alors, j'aimerais savoir 2-3 réponses. Peut-être ça va se ressembler. Pas le droit de se chicaner sinon, mais est-ce que... Ah, puis je mets une condition. Il faut que vous ayez parlé avec votre voisin pour pouvoir me répondre, d'accord? Il faut que vous ayez parlé avec quelqu'un. D'accord. Hélène, tu as une réponse, pas? Dieu voulait un roi, mais lui seul. Donc, Dieu roi. C'est ça que tu veux dire. OK. Intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Ça peut être la même ou une autre, comme ça on va... Mais on va pas voter, savoir quelle est la meilleure réponse. Hein? Oui, Liette. Très bien. Donc, excellent. Donc, Liette, tu dis que Dieu voulait pas qu'ils aient de roi, mais le peuple demandait un roi, et le peuple réalisait pas que le roi qu'il demandait, c'était Dieu lui-même. Très bien, ouais. Très bien. Une autre réponse? Oui, madame? Claire. Très bien. Donc, tu dis, Dieu voulait un roi qui travaille lié avec lui. Parce qu'on laisse pas un troupeau de moutons, on a besoin de berger, de quelqu'un qui nous dirige. Merci. Si je répète en même temps, c'est parce que je sais que c'est enregistré, puis c'est plate quand on a un silence dans le... Si vous allez écouter ça sur le web, c'est... Mais aussi pour être sûr que tout le monde entende. Alors, oui, Jean-Lambert. Donc, tu dis Dieu voulait pas vraiment de roi, parce qu'il voulait que les humains soient autonomes. Très bien, merci. Alors, ce que Jean-Lambert, tu me dis, c'est... Et si quand je vous répète, vous êtes pas d'accord avec ce que je répète, vous me le dites, hein? Donc, ce que tu dis, c'est que Dieu voulait pas que les hommes se dirigent, soient indépendants de lui. Il voulait diriger leur pas. Très bien, très bien. Donc, Francis, toi, tu dis que Dieu a accepté l'évolution, le développement social en faisant du peuple d'Israël en disant qu'il y aura aussi des conséquences. Très bien, à ce cheminement, oui. Très bien. Alors, une dernière réponse, parce que je veux reprendre la parole. Non, c'est correct. Donc, Hector, ce que tu renchéris, c'est ça, c'est que Dieu est tellement bien intégré comme la royauté qu'il a il s'est imbriqué dedans, il s'est rentré dedans en disant un descendant de David va être bon, c'est mes mots, là, ce Messie, notre Seigneur. Je dis-tu bien? C'est intéressant. Et c'est en fait, c'est enrichissant de pouvoir échanger, s'écouter, s'entendre. Hein? Il y a une chose qui ressort de tout ce que j'entends, c'est que le Seigneur, il veut être au centre. Hein? Que ce soit sans roi ou avec un roi, le Seigneur veut être au centre. Est-ce qu'il y a une réponse plus spécifique, plus précise? C'est certain que le Seigneur, après ça, il va toujours être critique aussi envers les rois. On voit ici que dans le livre des juges, il nous dit, chacun faisait ce qui semblait bon. L'auteur nous dit, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui semblait bon. Mais quand plus tard on va lire dans le livre des rois ou dans le livre des chroniques, on va nous dire, quand c'était un bon roi, le Seigneur le bénissait. Quand c'était un mauvais roi, le Seigneur l'a envoyé une épreuve. Donc, tout va repasser par tomber sur la tête du roi, finalement. Alors que là, on nous dit, c'est le peuple qui faisait ce qui bon lui semblait. Pour être précis, quand même, à l'époque des rois, dans 1 Samuel, quand le peuple, justement, quelqu'un en faisait allusion, là, quand le peuple demandait un roi, Samuel, qui était le dernier des juges, il s'est fâché avec le peuple. Puis il leur a dit, 1 Samuel 12, 19. Tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. »
J'ai sauté plus loin.
Pourquoi j'ai pas écrit le bon... c'est 1 Samuel 8. Excusez, j'ai sauté. 1 Samuel 8, 7. Qui dit, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » C'est quand le peuple demandait un roi. Et ce qui est précis ici quand même, c'est que Dieu, comme on l'a entendu, voulait, si on peut parler d'un idéal, c'était que ce soit Dieu qui soit le roi et qu'il n'y ait pas un homme qui soit celui qui règne au-dessus du peuple, de façon précise. Autrement dit, mais en même temps, la beauté, pardonnez-nous, mais donc Marc, il nous dit que avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose de populaire, même au Québec, de dire « Ah, il me semble que la société marcherait mieux avec un dictateur. » Donc, c'est pas si loin, en effet. Ouais, c'est bien possible qu'il y en a qui, comme tu dis, il y en a qui se sentaient obligés ou qui avaient peur d'exprimer leur opinion. Pour revenir à une idée des juges, ce que je désire qu'on puisse donc apporter notre regard sur le livre des juges avec un regard en disant, je veux trouver Dieu finalement dans le livre des juges. Hein? On a l'auteur du livre des juges qui moi semble nous dire, il aurait fallu un roi dans ce chaos-là. Mais on a le Seigneur à d'autres endroits dans les Écritures qui nous dit, mon idéal, c'est que c'est moi qui règne sur vous. Je peux vous le lire rapidement dans Jérémie 31, qui est un beau texte de Dieu, justement, qui dit, qui fustige les rois. Je pense que je n'ai pas pris le bon texte. C'est Ézéchiel 34. J'ai pris trop de versets en note, là. La Bible est riche. Dans Ézéchiel 34, au verset 2, qui dit, Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes, les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Et ici, il parle au roi, il parle aux dirigeants d'Israël en les fustigeant en disant, vous vous engraissez vous-mêmes. Dans Ézéchiel 34, puis au verset 15, il dit, il va renchérir, il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Et donc, même plus tard, quand Israël sera en exil, Dieu réaffirme qu'il veut être le roi sur le peuple, sur son peuple, sur le peuple d'Israël. Puis si on va un peu plus loin, même Jésus lui-même va dire dans Jean 4, quand la Samaritaine va lui dire, est-ce que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu? Est-ce que c'est en Samarie, à tel autre endroit, lequel qu'on doit écouter? Et Jésus va justement dire, le jour vient et c'est maintenant où on adorera Dieu en esprit et en vérité. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pas sur cette montagne, c'est pas au temple à Jérusalem. Et c'est justement que chacun peut adorer Dieu. Je retourne à Juges. Vous comprendrez que j'ai comme idée que la plupart d'entre nous, parce que longtemps moi-même j'ai lu les livres des Juges comme ça, avec critique en disant « Ah! Le livre des Juges est là pour nous montrer les péchés d'Israël. » Et pour nous montrer combien de fois on voit dans le livre des Juges, ça nous est répété, le peuple suivait, tant que le juge vivait, le peuple suivait Dieu. Quand le juge mourait et disparaissait, le peuple se rebellait contre Dieu et là Dieu tape. Là il crie à Dieu, « Dieu, envoie-nous quelqu'un! » Et là il nomme un juge. Puis là, on voit comment que le peuple est têtu et rebelle. Et après ça, le juge les délivre, le juge disparaît, il meurt. Paf! Israël se rebelle encore. Dieu les tape. Puis là, le peuple, il appelle à Dieu. C'est Dieu envoie un autre juge pour les sauver. C'est comme toujours la roue qui revient comme ça. Donc, on a tendance à regarder le livre de Juges comme de façon... Moi, j'ai eu tendance à le lire d'une façon critique, d'une façon sévère, de dire « Ah! Voici comment le peuple est rebelle et méchant. » Puis c'est... On nous les montre, c'est pas dur, c'est vrai aussi. Mais comme je me suis dit que Dieu, il souhaite qu'il n'y ait pas de roi nécessairement. C'est sûr que l'idéal, c'est que le roi soit un bon roi. Si le roi, il marche avec Dieu, ce serait l'idéal. Mais Dieu souhaite qu'il n'y ait pas de roi. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille trouver Dieu dans le livre des juges. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer dans le livre des juges de lui, puis de la communion des gens avec lui aussi? La première chose que j'ai découverte que par rapport à moi-même, là, je vous amène dans ma tête, vous avez l'habitude quand que je parle peut-être, mais c'est que la première chose que j'ai pensé, souvent j'ai eu tendance à penser, c'est « Ah! Hier j'ai eu une tentation, j'ai délaissé le Seigneur un petit peu, puis là, paf, j'ai poigné un flat. » Genre, c'est pas arrivé, mais tu sais, ah, ça c'est parce que là, j'appelle le Seigneur, il m'envoie un towing avec la carte CA. Mais, et là, je le loue, je m'en vais à l'église, je le célèbre, là, je sors, je fais un autre idiotie, et là, paf, il m'arrive un autre accident, puis on a tendance à vouloir regarder nos vies à la lumière du livre des juges, en se disant, ah, si vous voulez laisser le Seigneur, vous allez regarder les ressembler à des montagnes russes, le Seigneur va vous envoyer des épreuves. Alors ça, c'est le premier regard. Mais quand je regardais le livre des juges, quand vous allez le relire, vous allez voir qu'il se passe beaucoup d'années. Dieu, il revient pas taper Israël vite. Dieu est patient. On va nous dire... tout le long de la vie de ce juge-là, il a vécu pendant 20 ans. Puis après ça, l'ennemi est venu les opprimer pendant 15 ans. Ou tu sais, il se passe du temps. Dieu est pas vite à se fâcher contre nous, les êtres humains. Dieu est patient. Si vous pognez un flat, juste après avoir dit un sac, soit dans votre tête, c'est pas relié. Dieu est pas rapide comme ça pour nous punir. Et si vous arrive un malheur, puis vous ne savez pas pourquoi, vous pensez, ah, Dieu me punit, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas relié non plus. Parce que si vous arrive quelque chose, Dieu va vous avoir prévenu avant. Dieu va vous avoir révélé, il va vous avoir averti. Ce ne sera pas la colère de Dieu qui intervient. C'est ce que je découvre en lisant le livre des juges. Dieu n'est pas un père qui se cache là, dans un coin, puis il dit, « Ah, dès que je vois mon enfant qui va aller sais, je sais pas, lui mettre la main dans le pot de biscuits, tu sais, puis qui se cache derrière la porte d'armoire là, tu sais, puis là, ah, puis il l'attaque, puis il l'attrape. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il prévient, puis il avertit. Il y a une relation. Et Dieu est patient. Ça, c'est une chose que je découvre quand je lis le livre des Juges. Donc, je sais que quelques-uns sont en retard, qui vous disiez dans le sens essentiel. Quand vous allez lire, pensez à cette idée-là. Dieu est patient. Dieu prend son temps. Il n'est pas justement un roi capricieux qui intervient tout de suite et qui frappe.
Est-ce que je peux te poser une question?
Oui, si j'ai la réponse. Oui, oui. Oui, eh bien la réponse que ma faible réponse, ma réponse imparfaite que je donnerai, puisque je suis certain qu'on aurait plusieurs réponses comme tout à l'heure pour la royauté. Mais c'est ce que je vois aussi quand je lis même le livre des Juges justement, c'est que Dieu en fait il veut qu'on soit en relation avec lui. Donc en effet, on peut pas atteindre une perfection de savoir ah j'aurais fait plus de gaffes. Mais dans toutes les gaffes ou toutes les fautes ou tous les péchés que je vais recommettre, ben je veux m'approcher du Seigneur toujours. Le Seigneur, lui, ne m'abandonnera pas, il sera pas infidèle. Et moi, ben si je fais un péché, je vais pas aller me cacher. Je vais retourner aux pieds du Seigneur, puis je vais rester à ses côtés. Parce qu'en effet, on ne deviendra pas parfait et la vie n'est pas un examen d'école. Hein, les étudiants sont pas là, mais c'est souvent on a l'impression quand on sort de l'école, on fait un examen, c'est fini, hein, puis on n'a plus besoin d'y repenser. Mais la vie, on vit une épreuve, puis on peut très bien la revivre un an après ou cinq ans après. Et devoir passer au travers. Mais la beauté, c'est que on est toujours en train de marcher avec le Seigneur. Donc, il est notre perfection. On marche avec lui. Ouais, Liette surenchérit que c'est sûr qu'on vit toujours avec les conséquences qu'on vit. Mais la beauté, comme je dis, c'est que dans les conséquences, on les vit avec le Seigneur. Tout comme on nous faisait mention, le peuple a demandé un roi. Il y a des conséquences, mais le peuple, Dieu est toujours avec le peuple dans les conséquences. Et c'est ça qu'on peut pas éviter les conséquences, mais la beauté, c'est que le Seigneur est toujours avec nous dans ces conséquences-là. On nous suggère Philippiens 1:6, celui qui a commencé l'œuvre qui est en vous, il va la rendre parfaite pour le jour de la rédemption. Oui, Suzanne. Oui, je sais pas si on l'entend, c'est elle exprime qu'on a la volonté d'être parfait ou de vouloir. Ouais, la volonté. Et là, je pourrais. Mais ça, en tout cas, je viens de réaliser que si on mettait tous les auteurs de la Bible, je pense qu'ils s'astineraient vraiment. Ils se nuanceraient beaucoup, hein. Mais en effet, c'est riche de pouvoir s'entendre et pouvoir discuter comme ça. Et ce qui ressort, c'est toujours de se rappeler que dans notre chemin avec Jésus, donc vers la perfection, notre désir de perfection, ben lui, il est toujours là. C'est lui le chemin. C'est lui notre souffle qui nous encourage.
C'est pour ça qu'il faut avoir des juges, parce que tout le monde est d'accord.
Oui, il faut que... en effet. Mais la beauté du rôle des juges, c'est qu'ils ne sont pas rois. Et donc, ils ne sont pas là pour imposer quelque chose, mais ils sont là pour trancher entre un problème qui est entre les deux. Je vous emmène un peu plus loin. Ouais. Je vous emmène dans l'épisode de Barak et de Déborah. Je vais passer vite. Non, peut-être pas. Mais je veux pas enlever des louanges au Seigneur, là. Ouais, au chapitre 4, je vais vous le raconter. Je ne sais pas si certains le connaissent. Livre de Juges. Juges, chapitre 4. Tout le chapitre 4. On peut lire le chapitre 5 aussi. Lisez de Juges 1 à 21, c'est correct. Mais là, c'est le chapitre 4. Il y a une prophétesse qui s'appelle Déborah. Vous avez remarqué, c'est une femme. Elle se trouve dans le centre du pays, vers Bethléem, pas loin de Bethléem. Mais complètement au nord, il y a une invasion, il y a un roi qui fait des problèmes, et il y a son général qui sème la terreur. Le général s'appelle Sisera. Et le peuple, nécessairement, crie à Dieu. La prophétesse entend de Dieu, puis elle fait appeler un homme qui doit être certainement connu déjà comme un chef du peuple, qui s'appelle Barak. Donc l'homme doit voyager, quasiment le même voyage que Joseph et Marie, parce qu'il part du nord, il s'en va jusqu'à Bethléem pour rencontrer Déborah. Et Déborah lui fait une prophétie, elle dit « Dieu va faire perdre l'armée devant toi, Barak. Va combattre l'armée de Sisera et tu vas gagner. » Qu'est-ce que Barak va dire? Quelqu'un peut m'aider? Il dit à Déborah, seulement si tu viens avec moi. Autrement dit, moi je m'entends bien avec eux autres, là. Ils pilent pas sur mes patates, puis c'est correct. T'sais? Alors, Déborah lui dit, bon, ok, si tu veux, j'y aille avec toi, je suis d'accord, mais c'est pas toi qui vas avoir la gloire, c'est une femme qui va avoir la gloire de ça. Et est-ce que Barak il refuse? Il dit non, je veux pas partager la gloire avec une femme. Il dit non, ça me dérange pas. J'ai pas la citation exacte là, mais il dit c'est beau, mais je veux que toi, Déborah, tu viennes avec moi. Quelle première intuition? Qu'est-ce que vous pensez d'abord de Barak quand que Barak répond à la femme, faut que tu viennes avec moi. Il n'y avait pas de foi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pense de l'homme Barak, en fait? C'est ça que j'aimerais qu'on voit. De l'homme Barak. Messieurs, auriez-vous dit ça à Déborah? Donc, de façon réaliste, Barak, il dit, on peut pas, selon mes effectifs, je peux pas vaincre. Mm-hmm. Donc, Déborah, elle a une reconnaissance spirituelle, d'autorité spirituelle. Mais est-ce qu'on pense que Barak, c'est un homme viril? Tu sais? Hein? Il peut, peur? Ouais, ouais, on pourrait dire, il est un peu peureux. Est-ce qu'il est macho? C'est ça la question. Est-ce qu'il est macho? Parce qu'il veut, il lui dit, hey, la fille, faut que tu viennes avec moi. Mm-hmm. Donc, Marc suggère que c'était beaucoup demandé à une femme parce que Déborah était mariée, qui nous est citée ici, et que c'était beaucoup demandé à une femme, en fait, de se déplacer avec une armée, pour l'accompagner, alors que elle avait fait sa job de lui dire, t'as l'onction de Dieu. Je vous propose une réflexion juste à côté un peu. J'ai 3 minutes seulement, peut-être, mais je vais essayer de vous faire ça bref. Dans la mythologie grecque, qui était dans la culture populaire, qui était quelque chose qui était commun dans ces pensées de cette époque-là, il y avait un héros. Un héros que vous avez peut-être entendu, qui s'appelle Achille. Et à Achille, oui, c'est ça exactement, celui qui avait un talon faible, hein, parce que la mer l'avait trempé. C'est pas dans la Bible en passant, Achille n'est pas dans la Bible, d'accord? Ne dites pas, Daniel dit que Achille est dans la Bible, Achille n'est pas dans la Bible, d'accord? Mais ça faisait partie des mythologies quand même populaires, et il y a je crois qu'il y a un dieu ou une déesse qui propose à Achille, il dit, attendez, est-ce que je me trompe avec Hercule? Mais peu importe, en tout cas, c'est dans la mythologie. Peut-être que je me trompe avec Hercule, mais pardon, si c'est le cas. Mais c'est pas dans la Bible, ni un ni l'autre, de toute façon. OK? Mais il y a le héros fait une entente et le dieu, un des dieux, lui propose: je te propose d'avoir une vie tranquille pour toute ton existence, foyer, maison, enfant et tout, mais on connaîtra jamais ton nom. Ou tu vas avoir une réputation et une gloire éternelle que tout le monde va toujours se rappeler de toi, mais tu vas pas vivre longtemps. Mais tout le monde va se rappeler de ton nom. Et le héros, que je crois être Achille, mais peut-être que c'est Hercule, mais peu importe, il décide de chercher la gloire, hein, la gloire pour toujours. Malheureusement pour lui, je me rappelle plus si c'est Achille ou Hercule, mais... C'est Achille, OK, parfait. Très bien. Alors, j'étais bien parti alors. Mais on a ce héros-là qui, lui, il s'attache à la gloire puis qui dit: « Hey, peu importe ce qui m'arrive, je veux qu'on se rappelle de moi pour toujours. » Et ici, on a Barak qui dit non à la gloire. Déborah lui dit, on parlait des conséquences, mais Barak, il dit: « Ça me dérange pas. » Il dit: « Viens avec moi. La gloire va aller à une femme. » Je suis certain que Achille aurait encore plus dit non. Si en plus on dit: ta gloire va aller à une femme, Barak, lui, il dit: ça me gêne pas. Il dit: je veux la victoire, finalement. Il veut la victoire qui va lui venir par Dieu. Et dans ce regard-là, j'espère qu'on se rappellera de son nom à Barak quand on ira au ciel puis qu'on le rencontrera. Mais c'était pas ça qu'il voulait, qu'on se rappelle de son nom. Et donc, comme je dis, dans ce regard-là, cet homme-là qui, moi, quand je lis l'auteur du livre de Juges, j'ai l'impression que lui, il regarde Barak et dit: tiens, Barak, comment, tu sais? Sois viril un peu. Quand je lis l'auteur, l'homme qui a écrit, j'ai l'impression que l'homme qui a écrit ce texte, j'ai l'impression qu'il est un peu critique. Mais Dieu s'est joué de l'auteur parce qu'il a inspiré l'homme pour nous faire découvrir que Barak était un homme humble, qui était prêt à partager sa gloire avec une femme inconnue, que j'irai pas plus loin dans l'histoire de Yaël, qui est la femme qui aura la gloire d'avoir vaincu le général. Vous allez découvrir en lisant Juge 4. Mais prenons le temps de découvrir que cette faiblesse de cet homme-là, qui nous semble, tu sais, d'un point de vue humain, on pourrait dire: ah, oh, on aurait aimé que Barak soit un conquérant. On aurait aimé qu'il soit un roi. On va voir que le peuple d'Israël va vouloir que ses juges, d'un fois, deviennent rois, comme dans l'histoire de Gédéon. Eh bien, en fait, on découvre un homme qui est humble. Et puis que finalement, c'en est tout à la gloire de Dieu. Parce que Barak aurait pu dire: ah, oh, Dieu me donne la victoire, puis oublier Déborah, puis dire: c'est moi, le grand général qui a vaincu Sisera. Mais il a refusé la gloire. Puis il a marché humblement avec une femme à ses côtés, dans son imperfection, et ils ont eu la victoire, puis il a accepté qu'une femme, et je mets l'accent parce que souvent on dit: ah, la Bible est sexiste et les hommes dans la Bible sont sexistes, mais ici on a un exemple que Dieu s'est, en inspirant l'auteur des Juges, il nous parle. Il nous parle de cette humilité-là, il nous parle de cette patience de Dieu, et que cet homme a pu justement partager sa gloire avec une femme. Je vous laisse avec ce bouquet de réflexions.